Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Le projet de loi portant promotion immobilière a été adopté par l'Assemblée législative de transition ce mardi 20 juin 2023. Il est désormais interdit de procéder à la vente de terrains nus. Plus de 132 900 candidats se sont lancés ce mardi à la conquête du bac session 2023. Pendant ce temps, la coordination nationale des syndicats de l'éducation dénonce de graves problèmes dans l'organisation des examens. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale du réfugié célébrée le 20 juin, nous recevons comme invité le représentant résident du HCR au Burkina, Maurice Azon Nakpo. Le Burkina compte plus de 36 000 réfugiés sur son territoire. Interview à suivre en deuxième partie du journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le projet de loi portant promotion immobilière a été adopté par l'Assemblée législative de transition ce mardi 20 juin 2023. Adoption faite à l'unanimité des 70 votants du jour, malgré une abstention observée à l'adoption de l'article 58. Au total, les députés ont passé en revue l'ensemble des 106 articles répartis dans 8 chapitres de ce projet de loi. Et cette nouvelle loi qui vient remplacer celle de 2008 stipule que le lotissement, la restructuration et le remembrement urbain sont désormais proscrits. Il y a aussi l'interdiction de vente des terrains nus, parcelles donc en sus. Les projets immobiliers ne peuvent plus être réalisés que dans les communes disposant de documents de planification urbaine. On note aussi la limitation des superficies aux fins de promotion immobilière à 5 hectares maximum. Des sanctions ont été aussi prévues et revues dans ce projet de loi. Aussi, outre les amendes, il y a également des peines privatives de liberté. La courbe évolutive du secteur immobilier et foncier inquiète les membres du gouvernement de la transition et les députés du Burkina. En effet, le nombre de promoteurs immobiliers est passé de 9 en 2009 à 275 à ce jour dans le Grand Ouaga. Ces promoteurs immobiliers ont mobilisé 30 565 hectares de terre. Il s'avère nécessaire de voter donc une loi portant réglementation et assainissement de ce secteur. De façon générale, selon les députés de l'Assemblée législative de transition, le ministre en charge de l'urbanisme revient sur les avantages de ce projet de loi nouvellement adopté. Il est au micro de Momouni Tamboura et Charles Da.
En termes d'innovation, on peut noter la redéfinition même de l'activité de promotion immobilière. Donc dorénavant, la promotion immobilière va se recentrer autour de la construction de logements en excluant la question de promotion foncière. Donc il n'est plus question de vendre des parcelles nues. La deuxième innovation majeure qui est apportée, c'est que la promotion immobilière se passe au niveau des centres urbains, sur des terrains urbains aménagés. Donc, ce qui nous permet d'écarter les terres rurales et de protéger ces terres-là qui sont destinées aux activités agro-silvopastorales. La troisième innovation qui est apportée, c'est la limitation des superficies qui sont destinées à la promotion immobilière. Dorénavant, la promotion immobilière ne peut se faire que sur une superficie n'excédant pas 5 hectares par promoteur et par projet immobilier. Donc, cela permet justement d'éviter l'étalement urbain, l'accaparement des terres. Et également, une autre innovation qui a été apportée, c'est au niveau des sanctions, où on a relevé le niveau d'amende et également introduit des peines privatives de liberté. Tout ça là pour pouvoir rectifier, recadrer, recentrer la promotion immobilière au cœur de son métier qui est la production de logements pour accompagner l'État dans l'amélioration de l'offre en matière de logements au profit des populations.
Par loi éducation, baccalauréat session 2023, 132 980 candidats sur le territoire national sont à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Les épreuves écrites ont débuté ce mardi 20 juin 2023 au Burkina. Le ministre de l'Éducation, André-Joseph Ouédraogo, et son collègue de l'enseignement supérieur, Adjima Tchombiano, ont donné le top départ au lycée Wen Pouiré de Saba dans le nord-est de Ouagadougou. Gisèle Tirogo a suivi pour nous le lancement. Son compte rendu porte la voix de Brigitte Yoda.
Il est 6h00 au lycée public Wen Pouiré de Saba. La cour grouille déjà de candidats venus de plusieurs quartiers de Ouagadougou pour les épreuves du premier tour du baccalauréat session 2023. C'est l'heure des dernières révisions. À 6h30, les surveillants procèdent à l'identification des candidats. Le ministre de l'Éducation, André Ouédraogo, accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur, sont passés dans quelques salles, encouragés et souhaités bonne chance aux candidats.
Vraiment, vous souhaitez beaucoup de courage. Beaucoup d'inspiration, concentrez-vous, considérez que ce sont des exercices, il n'y a rien d'extraordinaire dans le sujet.
À 7h30, le ministre de l'Éducation procède à l'ouverture de l'enveloppe de la première épreuve du jour. Le top de départ est donc donné. Pour cette année, ils sont 132 980 candidats sur le territoire national contre 142 728 en 2022, soit une baisse de 6,84%. Cette diminution, selon André Ouédraogo, est due aux conditions sécuritaires difficiles que vit le pays.
C'est un message d'encouragement parce que l'année n'a pas été de tout groupe. Elle a été éprouvante pour l'ensemble des acteurs, dont bien sûr les élèves candidats. Donc on est venu pour les encourager. Donc en lançant le bac à Saba, j'ai une pensée pour l'ensemble des candidats et des candidates, surtout pour ceux d'entre eux qui se situent dans des zones à fort défi sécurité.
Ici au lycée Wen Pouiré de Saba, les candidats sont sereins, même si la peur et le stress se lisent sur certains visages. Confiance et courage sont des sentiments qui les animent.
Un peu la panique, mais je sens que ça va aller.
Bon, je me sens un peu à l'aise. Et puis, j'attends patiemment aussi les 6 heures. Que ça soit abordable pour tous les candidats.
Le lycée Wen Pouiré de Saba est composé de 3 jurys. Le jury 202, qui a reçu les autorités pour le lancement, enregistre 268 candidats, soit 107 filles et 162 garçons. Son président, Nerbe Wende Sawadogo, se réjouit de la visite des autorités dans son centre.
Je tiens d'abord à dire que nous avons eu l'agréable surprise de recevoir donc les autorités pour le lancement officiel. C'est un honneur. Et pour le moment, tout se passe assez bien. Même s'il y a quelques difficultés, tout se passe bien et nous pensons que tout ira mieux.
L'examen du baccalauréat cette année va mobiliser 9180 correcteurs au sein des 510 jurys répartis sur l'ensemble du territoire national. Les résultats du premier tour sont attendus le 29 juin et ceux du second tour au plus tard le 6 juillet prochain.
À propos du lasso, le lancement a été effectué par le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins au lycée Alpha Solidarité 3. Mamo Ouédraogo était sur place. Suivons son reportage.
Baccalauréat session 2023, 20 766 candidats dans la région des Hauts-Bassins sont à la conquête de ce premier diplôme universitaire. Ce mardi matin aux environs de 6 heures, au lycée privé Alpha Solidarité 3, nous constatons l'engouement de ces candidats devant leur salle d'examen. Des surveillants procèdent à l'identification et les appellent pour l'accès aux salles. Le stress pour certains, la peur pour d'autres, mais l'assurance et la détermination sont au rendez-vous.
Il y a la peur, il y a le stress, mais Inch'Allah, ça va aller. La préparation, ça s'est bien passé.
Un peu stressé, mais ça va. On espère le meilleur, on a donné le bon.
Je me sens bien parce que j'ai préparé depuis l'année passée en vacances. Donc actuellement, je me sens à l'aise. Ça va aller.
Quant à l'organisation administrative de ces épreuves, la secrétaire générale de la région, Mariama Konate, rassure.
Tout se passe bien. Et nous avons visité quelques classes. Les élèves sont sereins. Tout le monde est à son poste. Je pense qu'il n'y a pas trop d'absents. Et donc, nous espérons que tout va bien se dérouler tout au cours de l'administration des épreuves.
Le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, pour sa part, encourage et recommande ses filles à plus de concentration. Ibrahim Sanon.
Vous savez que c'est un long parcours pour ces élèves. C'est un moment de stress, c'est un moment d'angoisse. Et il était de notre devoir de venir leur témoigner toute notre solidarité et espérer donc que tout se passe bien et que la moisson soit bonne.
Malgré certaines difficultés rencontrées au départ, à l'heure de l'ouverture des premières épreuves, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des épreuves. Foi du directeur régional en charge des enseignements post-primaires de Haut-Bassin. Frédéric Dalmeida.
C'est un examen, autant pour les candidats que pour les organisateurs. La pression est partout et le stress est partout. Nous travaillons à parfaire les choses au fur et à mesure que nous allons avancer, mais il n'y a pas de difficulté qui puisse bloquer le déroulement de l'examen.
Dans la région des Haut-Bassin, le plus jeune candidat au baccalauréat est âgé de 16 ans et le plus âgé à 65 ans. Les premiers résultats sont attendus le 29 juin prochain. Mamou Edraogo, Bobo Julasso, Radio Omega.
Après les Haut-Bassins, direction le Centre-Ouest, où plus de 13 000 candidats sont en lice pour ce bac 2023. Les autorités régionales sont allées lancer officiellement les épreuves du baccalauréat au lycée professionnel Maurice Yameogo de Koudougou. Retour avec Sabuna Ouedraogo sur le début de cet examen, dont les premiers résultats sont attendus, Mam vient de le dire, le 29 juin prochain.
Comme Josiane Ramdé, ils sont 13 088 à prendre part au bac pour le compte de la région du Centre-Ouest. Un examen que les candidats affirment avoir bien préparé depuis la rentrée scolaire.
Je suis candidat libre, c'était pas simple avec les activités, mais on s'est bien préparé.
La matière préférée, c'est sciences physiques et mathématiques, mais particulièrement c'est sciences physiques.
Bon, comme tout élève, on a préparé l'examen depuis le mois d'octobre. À l'endroit de mes camarades, ce que j'ai à dire, c'est de ne pas paniquer. Et à la fin, on est sûr qu'on sera tous vainqueurs.
Malgré une baisse du nombre des candidats et une situation sécuritaire préoccupante dans certaines localités, la direction régionale des enseignements post-primaires et secondaires a bon espoir que le taux de succès cette année sera meilleur que celui de l'an dernier. Didier Paré, directeur régional en charge de l'enseignement secondaire du Centre-Ouest.
L'année passée au baccalauréat, nous étions autour de 40% et nous souhaitons cette année en tout cas aller au-delà.
Des encouragements, les futurs bacheliers en ont eu avec le premier responsable de la région qui a présidé le lancement officiel du bac, Boubacar Traoré, gouverneur du Centre-Ouest.
Et nous sommes venus donc de manière symbolique souhaiter bonne chance aux candidats et à travers eux donc aux candidats de toute la région donc du Centre-Ouest.
Les candidats au bac 2023 de la région du Centre-Ouest composent dans 15 différentes séries, dont l'enseignement technique, le professionnel et l'enseignement général. Sabuna Ouedraogo, Koudougou, Radio Omega.
Parlons toujours des examens scolaires. La CNSE dénonce de graves problèmes dans l'organisation, la non-stabilité et la non-maîtrise du logiciel de gestion des examens par les acteurs impliqués dans le déroulement des examens, la publication des listes des examinateurs avec toutes les informations les concernant sur les réseaux sociaux et la non-disponibilité des convocations pour les examinateurs du baccalauréat à la veille de l'administration des épreuves sont entre autres dysfonctionnements recensés par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation dans l'organisation des examens scolaires de la session 2023. La CNSE, dans un communiqué en date du 19 juin, dénonce donc une situation gravissime qui porte d'énormes germes à même d'entacher la crédibilité des examens scolaires dans notre pays. Tout ceci dénote, sans conteste, soit d'une véritable insuffisance dans la préparation des examinateurs, soit d'une incapacité des acteurs de la chaîne de préparation, soit d'un acte de sabotage, conclut la CNSE. Adja Bintou Ouedraogo, une guérisseuse, a initié une séance de prière en faveur du retour de la paix au Burkina Faso le 9 juin dernier. C'est la ville de Bobo Dioulasso qui a été choisie pour abriter cette prière. Elle était aussi l'occasion de soulager des personnes venues dans l'espoir de recouvrer la santé. Lectures de Coran et prêches sont ponctuées d'une journée que nous relate Abdulaziz Zoulabou.
Vêtue de blanc, Adja Bintou Ouedraogo et sa délégation sont accueillis par des habitants du quartier de Bobo 2010, venus communier avec la guérisseuse. Aussitôt installée, c'est la sourate Al-Fatiha qui est choisie pour planter le décor.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim,
La parole est ainsi donnée à tour de rôle à des leaders de la communauté pour souhaiter la bienvenue à leur hôte. S'en suivra une lecture du Saint-Coran couronnée par le sacrifice d'un bélier. Et enfin, le moment tant attendu, à savoir la prise de parole par la guérisseuse. Et comme il fallait s'y attendre, ses premiers mots sont des bénédictions pour la paix individuelle et collective. Adjabintou Idraogo.
Que Dieu donne la santé à tous les Burkinabés, que Dieu bénisse les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. J'ai aussi une pensée pour le président Ibrahim Traoré et que Dieu le bénisse également. Que Dieu guérisse les malades et leur accorde tout ce dont ils désirent. Que toi qui es à la recherche de l'enfantement ou du mariage, que tes vœux soient exaucés.
Tour à tour, femmes, hommes et enfants sont passés mettre leur contribution dans un panier pour solliciter les bénédictions de la guérisseuse. Cette séance de prière, aussi voulue par les habitants, est saluée à sa juste valeur par l'imam du secteur.
Nous nous travaillons avec le Coran. Pour cela, nous le bénissons. Lui et nous, qu'Allah nous fortifie. Nous sommes venus nous ajouter à lui, puisque le travail qu'il fait, c'est au nom de Dieu. Et un soignant, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bénédictions. Pour soigner, il faut de la bonne foi. Et c'est à cause de sa bonne foi que nous sommes venus nous joindre à lui. Nous sommes venus le bénir et souhaiter que Allah le guide. Tout ce qu'il soigne, qu'il recouvre la santé grâce à Dieu. Nous sommes tous des malades. Et soigner, c'est faire preuve de bonne foi. Même Dieu nous l'enseigne de nous soigner. Faudra pas qu'à cause de l'islam et à cause de ta soumission en Dieu, que tu te dises que tu ne vas pas soigner les malades. L'islam même est contre cela.
Plusieurs maladies sont traitées par la guérisseuse Adjabintou Idraogo. On peut citer entre autres le diabète, les ulcères, la tension artérielle et les hémorroïdes. Les racines, les écorces et les feuilles des arbres sont les remèdes fréquemment utilisés.
En Côte d'Ivoire, les deux sites de transit aménagés par le gouvernement ivoirien pour accueillir les réfugiés fuyant les violences djihadistes au Burkina Faso voisin devraient être opérationnels à la fin du mois, annoncé ce lundi le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en Côte d'Ivoire. Ce sont des sites qui ont été construits en deux mois. On devrait recevoir les premiers réfugiés à la fin de ce mois. Le nécessaire pour les accueillir est sur place, a indiqué Papa Kisma Sila lors d'une conférence de presse à Abidjan. Au total, les deux sites financés à 100% par le gouvernement ivoirien et situés à Ouangoloudougou au nord et à Bouna au nord-est, près de la frontière avec le Burkina, pourront accueillir environ 10 000 personnes. Le HCR a officiellement enregistré 15 835 demandeurs d'asile venant quasiment exclusivement du Burkina Faso, mais estime le nombre total d'arrivées à plus de 27 000. Le nombre a bondi en un an et demi. En février 2022, le HCR en dénombrait 7 000. Le président nigérian Bola Tinubu a nommé lundi soir de nouveaux chefs de l'armée et de la sécurité 3 semaines après son investiture à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique en proie à de graves violences. Le remaniement de l'appareil sécuritaire après un changement de président est une pratique courante au Nigeria qui a été très marquée par 3 décennies de dictature militaire avant de renouer avec la démocratie en 1999.
La revue de presse.
Les quotidiens burkinabés braquent leurs projecteurs sur le référendum constitutionnel au Mali. Selon le journal Le Pays, tout porte à croire que le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge, que ce soit le oui ou le non qui l'emporte. Le doyen des quotidiens se demande si cette loi fondamentale présentée comme la thérapeutique viendra guérir le pays de Modibo Keïta de tous les maux dont il souffre depuis une décennie et lui redonner sa grandeur et sa splendeur du temps de l'Empire Madengue. L'Express du Faso lui revient sur le procès de l'affaire Vincent Dabilgou. La revue de presse du jour porte la griffe d'Abdoul Kader Konaté.
Affaire Vincent Dabilgou, c'est donc comme ça qu'on a géré notre argent, titre l'Express du Faso, qui estime que les révélations qui se font actuellement au tribunal de grande instance de Ouaga 1, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Vincent Dabilgou, font froid au dos, en même temps elles scandalisent. Pour mon confrère, à voir de près, tout est permis sauf l'orthodoxie financière et les règles qui régissent la gestion financière publique. De même, tout porte à croire que même la morale mentale n'y était pas. Faut-il donc comprendre que tous les malheurs de ce pays viennent de la mauvaise gouvernance, de la cupidité de certains gestionnaires et du manque de respect de la chose commune? Questionne le journal Bobolais pour qui, en tout cas, si ce n'est ça, ça y ressemble. C'est pourquoi il pense qu'il faut un véritable coup de fouet afin de délivrer toutes ces personnes qui confondent les caisses de l'État et leurs propres poches, conclut l'Express. Développement des infrastructures aéroportuaires, l'aéroport de Bobo-Dioulasso en ligne de mire, affiche le quotidien pour qui l'aéroport de Bobo-Dioulasso, s'il n'agonisait pas, avait du mal à respirer. Comment comprendre qu'une capitale économique digne de ce nom ne puisse pas bénéficier d'infrastructures de transport aux normes internationales, s'interroge le journal. Avant de poursuivre, on comprend alors pourquoi il fut un moment où des habitants de Bobo et pas des moindres criaient à l'injustice et à l'abandon. Mon confrère pense que le Premier ministre et son gouvernement semblent avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire de la région et plus particulièrement sa capitale Bobo-Dioulasso, car ne dit-on pas que vouloir, c'est pouvoir? À l'international, les quotidiens burkinabés braquent le radar sur le référendum constitutionnel au Mali. Si pour l'observateur Palga, cette loi fondamentale, présentée comme la thérapeutique qui viendra guérir le pays de Modibo Keïta et tous les maux dont il souffre depuis une décennie, et lui redonner sa grandeur et sa splendeur du temps de l'Empire Mandingue, le journal Le Pays pense que tout porte à croire que le Mali n'est pas encore sorti de l'auberge, que ce soit le oui ou le non qui l'emporte. Du reste, le doyen de quotidien note que malgré tous les efforts, le discours souverainiste, les gages d'assurance et de sécurité déployés par les colonels pour leur nouvelle constitution, les électeurs n'ont pas du tout été au rendez-vous. En attendant, les premières tendances de la mission d'observation des élections modèle qui table sur un taux de participation de 27%. Le journal Le Pays de poursuivre reste à savoir si la tenue de ce référendum qui demeure, quoi qu'on dise, un test grandeur nature de la capacité des autorités intérimaires à organiser un vote emportera respect des engagements des militaires maliens concernant le calendrier de la transition que la CEDEAO surveille comme du lait sur le feu. En tout état de cause, selon mon confrère, entre question de la laïcité de l'État, renforcement des pouvoirs du président, amnistie pour les putschistes et leur éligibilité au scrutin de fin de la transition, qui sont autant de dispositions de la nouvelle loi, ce ne sont pas les sujets de discussion qui manquent. Le résultat du référendum permettra-t-il de mettre fin à la controverse pour tourner définitivement la page des débats? On attend de voir, conclut le journal, des 1200 logements.
C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. Yaya Doumandé était au live Facebook. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis.
Radio Omega, l'info en direct.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Bonjour, monsieur Maurice Azulanko.
Bonjour, monsieur.
Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 juin, journée mondiale du réfugié. Qu'est-ce que cette journée symbolise?
C'est l'occasion de rendre hommage à la résilience et au courage de millions de réfugiés dans le monde entier. C'est aussi l'occasion de sensibiliser le public sur la situation de ces réfugiés dans le monde entier. Et enfin, c'est l'occasion pour le HR de réaffirmer son engagement à toujours œuvrer pour le bien-être de ces réfugiés aux côtés des États du monde entier.
On parle de réfugiés, on parle aussi de déplacés. Quelle est la différence entre ces deux concepts-là? Et cette journée, est-ce que les déplacés sont pris en compte?
La grande différence, c'est que le réfugié traverse une frontière internationalement reconnue. Il est sous un régime de protection internationale, alors que la personne déplacée interne quitte une localité pour une autre ou un lieu pour un autre lieu et reste sous le régime de protection des autorités de son état d'origine ou de nationalité. La journée mondiale du réfugié, le 20 juin, elle est commémorée en l'honneur des réfugiés. Mais c'est également l'occasion de toujours penser à la situation des personnes déplacées internes dans le monde entier parce qu'au-delà des réfugiés, le HCR s'occupe également de la gestion et de la situation des personnes déplacées internes dans le monde entier. Donc le 20 juin, c'est également l'occasion de rendre hommage à ces millions de personnes déplacées internes.
Le HCR est au cœur de la prise en charge des réfugiés. À la date d'aujourd'hui, quel point vous pouvez faire pour le Burkina Faso?
Alors aujourd'hui, au Burkina Faso, le pays accueille au total 36 613 réfugiés, dont la majorité est malienne et également des réfugiés d'autres nationalités. Évidemment, ces réfugiés, pour la plupart, vivent dans la région du Sahel, dans les hauts bassins, mais également dans la région du nord, à Ouaigouia. Nous avons quelques milliers au niveau de Ouagadougou. Évidemment, la gestion de ces réfugiés se fait avec le gouvernement du Burkina Faso, notamment la Commission nationale chargée des réfugiés. Nous avons également des Burkinabés qui sont des réfugiés dans les pays voisins. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80 000 Burkinabés qui sont réfugiés ou demandeurs d'asile dans les pays voisins, essentiellement le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et récemment le Ghana également. Où qu'elles soient, ces personnes réfugiées sont sous la protection des États, mais également du HCR, et nous œuvrons ardemment pour leur venir en aide et améliorer leur situation.
Nous sommes à environ 2 millions de déplacés internes au Burkina Faso. En dépit de ces difficultés-là, comment le pays arrive à prendre en charge les autres réfugiés?
Selon les dernières statistiques du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASU, nous sommes au-delà des 2 millions de personnes déplacées internes. À côté de ces 2 millions de personnes déplacées internes, nous avons les plus de 36 000 réfugiés dont je parlais tantôt. Le Burkina Faso, malgré les défis, arrive toujours à pouvoir donner le meilleur qui est attendu du pays pour venir en aide à ces personnes déplacées, mais également à ces réfugiés. Cela témoigne que malgré ses propres défis internes, le Burkina Faso quand même arrive non seulement à respecter ses engagements internationaux, mais à venir en aide à ces réfugiés-là qui vivent sur son territoire. Évidemment, le HCR est là pour accompagner l'État du Faso, le HCR et ses partenaires, j'allais dire, pour accompagner l'État du Faso. Évidemment, cela ne peut être une réalité qu'avec le soutien de la communauté internationale et particulièrement de nos donateurs, dont je saisis l'occasion pour remercier pour les efforts qui sont faits quotidiennement à l'endroit du HCR, de ses partenaires, mais également de l'État du Faso pour venir en aide à ces réfugiés-là et à ces personnes déplacées internes.
Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous faites face? Quand je dis vous, c'est le HCR, bien sûr, dans la prise en charge des réfugiés.
Alors, la première difficulté aujourd'hui, dans un contexte comme le nôtre au Burkina Faso, c'est le défi d'accès sécurisé à ces personnes réfugiées et même les déplacer dans le pays. Comme vous le savez, le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire et accéder à ces populations reste un défi majeur. La deuxième difficulté à laquelle nous faisons face est la rareté des financements. Donc l'insuffisance des ressources qui sont disponibles pour protéger, assister et trouver des solutions à la situation de ces réfugiés et ces personnes déplacées internes.
Le Conseil norvégien des réfugiés a fait une étude il n'y a pas si longtemps que ça. Dans leur étude, ils disent que la crise burkinabé est l'une des crises les plus négligées dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors, l'étude publié récemment par l'ONG, le Conseil norvégien pour les réfugiés, met en lumière une réalité assez douloureuse pour le Burkina Faso. La crise au Burkina Faso, la crise de déplacement forcé, j'allais dire, que ce soit les réfugiés ou les personnes déplacées internes, est une crise négligée, il faut le reconnaître. Et donc, au niveau du HCR, nous partageons cet avis. C'est d'ailleurs une opportunité pour l'ensemble des acteurs à travers une telle étude, d'attirer l'attention de la communauté internationale, de ne pas oublier le Burkina Faso et le peuple burkinabé et de soutenir les autorités et le HCR ainsi que l'ensemble des autres acteurs pour pouvoir venir effectivement en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées internes qui restent au cœur de cette crise de déplacement forcé.
C'était l'invité de la rédaction.